en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, dans notre habit vert d'aujourd'hui, nous vous proposons de faire la connaissance d'Alain Aspect. Membre de l'Académie des sciences, il a récemment reçu la médaille d'or du CNRS en 2005 pour l'ensemble de ses recherches. Alors sur quoi portent ses travaux, me direz-vous ? Eh bien, Alain Aspect s'est intéressé à la physique quantique, un thème bien obscur pour le commun des mortels. Mais lui excelle dans cette discipline. Tout d'abord, il clôt un débat de plus de 50 ans entre illustres physiciens comme Albert Einstein, par exemple, prouvant par des expériences restées célèbres l'existence du fascinant phénomène d'intrication. Mission supposée impossible, mais accomplie. Puis il travaille avec Claude Cohen-Tanucci, le prix Nobel de physique 97. Au menu, le refroidissement d'atomes, terrain pratiquement vierge à explorer. Et puis il crée en 92 un groupe de recherche consacré à l'optique atomique. Voici donc un habit vert un peu particulier, puisque cette interview a été réalisée à l'extérieur, lors de cette fameuse remise de médaille d'or. Elle est conduite par le journaliste scientifique Alain Sirot.
Première question que je voudrais vous poser, c'est quelle définition vous donneriez-vous de ce monde auquel vous vous intéressez, celui de la physique quantique, qui nous permet de comprendre ce que vous éprouvez comme plaisir à jubiler autant?
Oui, alors, donner une définition de la physique quantique, c'est pas facile. La physique quantique, c'est la branche de la physique qui nous permet de décrire, de comprendre la matière au niveau microscopique. Ça nous permet de comprendre pourquoi la matière est stable. On sait qu'elle est formée de charges positives et négatives qui s'attirent. Pourquoi ne s'effondre-t-elle pas sur elle-même? Nous avons besoin de la physique quantique pour comprendre ça. Nous avons besoin de la physique quantique pour comprendre la liaison chimique, pourquoi les atomes s'accrochent les uns aux autres. Nous avons besoin de la physique quantique pour comprendre comment les conducteurs, les semi-conducteurs, conduisent le courant électrique. Nous avons besoin de la physique quantique pour comprendre comment la matière émet de la lumière, comment la lumière est absorbée ou peut agir sur la matière. Et puis, plus récemment, dans les dernières décennies, on a eu besoin de la physique quantique pour comprendre qu'il y avait en optique des phénomènes qui ne pouvaient pas être expliqués par les théories du 19e siècle, ces théories magnifiques dues à Fresnel, à Maxwell. Eh bien, il y a certaines propriétés de la lumière, qu'on appelle les propriétés spécifiquement quantiques de la lumière, qu'on ne peut comprendre qu'avec la physique quantique. Donc, on a besoin de cette physique quantique pour comprendre toutes ces propriétés. Alors, pourquoi ça semble provoquer une jubilation chez moi? Oui, j'accepte le mot. Ça semble provoquer une jubilation parce que moi, j'ai choisi d'être physicien parce que je pense que le monde est compréhensible, qu'on doit pouvoir le comprendre, et j'avais envie de comprendre la structure de la matière et de comprendre des choses sur le détail intime de la lumière, sans doute une petite graine qui avait été semée par mes professeurs, par mes enseignants. Et la physique quantique, c'est un moyen d'accéder à cette compréhension. Il y a peut-être aussi une dimension jubilation intellectuelle, c'est une théorie qui est difficile, qui est contre-intuitive, et apprivoiser un peu cette théorie, et avoir le sentiment qu'on arrive à la comprendre un petit peu, il y a une certaine jubilation intellectuelle.
Alors, vous dites souvent que la physique quantique est étonnante et contre-intuitive. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, et est-ce qu'elle est pour autant compréhensible?
Oui, les deux. Pourquoi elle est contre-intuitive? Elle est contre-intuitive parce que le formalisme mathématique, les mathématiques qu'on utilise en mécanique quantique, sont des mathématiques qui habitent, qui agissent dans des espaces abstraits. Ce n'est pas l'espace à trois dimensions dans lequel on vit, dont ce sont des espaces abstraits. Et encore pire, pour décrire les grandeurs physiques dont nous avons l'habitude, la position, la vitesse d'une particule, on utilise des objets mathématiques étranges qui ne correspondent pas à ce qu'on utilise habituellement. Par exemple, si je vous dis que pour décrire la vitesse d'une particule en physique quantique, eh bien en fait, on va utiliser un opérateur auto-adjoint qui agit dans un espace de Hilbert. pas facile à faire coller ça avec le monde dans lequel nous vivons.
Pas vraiment. Non.
Voilà. Et donc, je crois que la principale difficulté pour faire comprendre, pour vulgariser la physique quantique, c'est qu'on ne sait pas bien comment fabriquer des images dans notre monde. Donc c'est en ce sens qu'elle est vraiment contre-intuitive.
Pourtant elle est compréhensible.
Alors elle est compréhensible une fois qu'on a fait l'effort pour pénétrer ce formalisme mathématique de la physique quantique. Alors on a un formalisme non ambigu. Les gens disent dualité onde particule. Alors les physiciens ne savent pas ce qu'ils veulent, c'est une onde ou c'est une particule. Mais le formalisme, lui, il sait ce qu'il veut. Il est à la fois onde et particule. Donc si on est capable de pénétrer le formalisme mathématique, alors on a une théorie extraordinairement fructueuse et puissante. On a une théorie qui permet non seulement de comprendre ce que nous voyons déjà, mais surtout, test ultime des propriétés physiques, ça nous permet, devant une situation qu'on imagine, mais que nous n'avons encore jamais réalisée en réalité, ça nous permet de nous dire, si je faisais ceci, voilà ce que me prédit la physique quantique. On fait l'expérience, et test ultime de la théorie, si l'expérience est en accord avec ce qu'on a prévu, alors ça veut dire que la théorie est une bonne théorie. Alors c'est ce qu'on a fait, j'ai de nombreux exemples de ça. Bon, d'abord, on a parlé des expériences de 1982 sur l'intrication, c'était une expérience de pensée, on a imaginé cette expérience, la physique quantique prévoyait quelque chose, on l'a observé, mais c'est un petit peu ce qu'on fait tout le temps. Refroidissement d'atomes par laser, on avait prédit que si on faisait ceci et cela, il se passerait certaines choses. Il y a des fois, c'est encore mieux que prévu, on l'a vu dans le film.
Pourtant, vous utilisez toujours le mot contre-intuitif. Vous dites qu'elle est très contre-intuitive.
Oui, alors, contre-intuitive, encore une fois, je reviens à ces affaires d'image. Bon, on va prendre l'exemple de la dualité en deux particules. Il y a 20 ans, exactement, 1985, avec Philippe Grangier, qu'on a vu dans le film.
Il jubilait lui aussi.
Oui, je crois. C'était clair.
C'est un jubilateur.
Ah oui. Donc avec Philippe Grangier, c'était sa thèse, hein, c'était mon premier thésard. On a réussi à fabriquer des photons uniques. Alors c'était vraiment une première. Alors ce photon unique, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a envoyé sur une lame semi-réfléchissante. Grosso modo, vous avez un morceau de verre, si vous envoyez la lumière sur un morceau de verre, une partie est réfléchie, une partie est transmise. Donc on envoie le photon unique sur un morceau de verre, sur une lame semi-réfléchissante. Qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, ce qu'on a constaté, c'est ce que l'intuition nous dit, c'est que si c'est vraiment un photon, une particule, un grain, il n'est pas coupé en deux. Il va soit d'un côté, soit de l'autre. Alors ça, on l'a prouvé en mettant deux détecteurs. On regarde si on le détecte d'un côté, si on le détecte de l'autre, et on a observé que les deux détecteurs ne sont jamais activés simultanément. Donc, on prouve qu'on a quelque chose qui va soit d'un côté, soit de l'autre, on dit, on fabrique une image, c'est un grain de lumière qui arrive, il va soit d'un côté, soit de l'autre. Bien.
C'est ça.
Alors, fin de la première expérience, on garde la même source, le même morceau de verre, la même lame semi-réfléchissante, on enlève les détecteurs, c'est embêtant le micro, j'aime bien parler avec deux mains, mais ça fait rien. Donc, on a maintenant enlevé les deux détecteurs et on recombine les deux trajets lumineux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on observe? On observe des interférences. Et les interférences, toute personne qui a fait un temps soit peu de physique sait que pour avoir des interférences, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir une onde lumineuse qui se partage en deux et qui se recombine. Si on a des interférences, c'est qu'il y a une onde qui s'est coupée et dont les deux morceaux sont passés par deux chemins différents. Donc, la deuxième expérience, si vous voulez en faire une image dans notre monde, vous êtes obligé de dire il y a quelque chose qui se coupe en deux et qui se recombine. Alors que la première expérience nous disait il y a quelque chose qui va soit d'un côté, soit de l'autre. Or pourtant, c'est la même source de lumière qui émet des photons uniques, c'est la même lame semi-réfléchissante. Donc vous voyez, le problème, c'est que quelque part, on est un petit peu en contradiction avec la logique des Grecs, le principe du tiers exclu, c'est une chose ou l'autre, mais pas les deux à la fois. Et bien là, quelque part, c'est les deux à la fois. Alors j'insiste quand même sur le fait que cette difficulté, on l'a avec des images, le formalisme mathématique, lui, il sait parfaitement ce qu'il dit. Oui. Il décrit les deux à la fois.
Qu'est-ce que vous appelez le formalisme mathématique? C'est la difficulté qu'il y a à concilier ce que nous décrivent, ce que nous disent les mathématiques avec le monde réel dans lequel nous vivons.
Oui, ça c'est le problème de l'interprétation de la physique quantique. Le formalisme mathématique, encore une fois, c'est les mathématiques qu'on utilise. Et puis, il y a un moment où les résultats des calculs, il faut les faire correspondre avec le monde. Et C'est ça le problème qu'on appelle le problème de l'interprétation de la physique quantique, c'est-à-dire on a des recettes pour dire, enfin c'est plus que des recettes, on a des règles pour dire si je fais une expérience, que je mets un appareil qui mesure telle quantité, alors je prédis que dans 30% des cas, je vais observer ça. Mais on aimerait comprendre un peu mieux comment articuler ces calculs avec un monde qui, à la fin, est un monde qui vit dans notre espace à trois dimensions et un monde dans lequel les objets sont classiques, dans lequel les chats sont pas à la fois vivants et morts. Ils sont soit vivants, soit morts. Donc il y a un problème là qui est loin d'être résolu.
Le physicien Nicolas Guisin disait que c'est un sujet qui sent le soufre. Il disait même c'est sale. Il a utilisé le mot sale.
Oui, mais il a dit à l'époque, ça sentait le soufre. Les choses ont bien changé. Il est vrai que dans les années 70, on avait l'impression que c'était un débat qui était réservé un petit peu, alors certains disent au cocktail, aux discussions d'après-dîner, aux choses comme ça, mais les choses ont bien changé, et vraiment le mérite le plus grand revient à John Bell, puisque John Bell a réalisé ce pas intellectuel que je trouve absolument époustouflant, et dont je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'exemples dans l'histoire de la pensée humaine. On avait un débat épistémologique, un débat sur les fondements de nature philosophique en quelque sorte, et d'un seul coup, grâce à John Bell, on s'aperçoit que ce débat philosophique, on va pouvoir le trancher en faisant une expérience de physique.
Et grâce à vous, parce que cette expérience, c'est vous qui l'avez conduite.
Oui, enfin, j'en ai conduit une, mais il y a eu des pionniers aux États-Unis qui ont réalisé les premières expériences, il y a eu une série d'expériences, mais disons que l'expérience qu'on a faite en 82 tranchait de façon particulièrement claire le débat à Borenstein.
Est-ce qu'à l'aspect, ces questions d'interprétation, justement, ces tentatives de comprendre une théorie que vous dites si contre-intuitive, c'est un peu le fil conducteur, la ligne de force de vos vies scientifiques ?
Oui et non. C'est vrai que sûrement j'ai cette obsession, depuis toujours j'ai cette obsession, comme je l'ai dit ou comme on l'a dit dans le film, mais si on l'a dit dans le film, c'est que je leur ai expliqué. Mais je crois que je l'ai dit, oui. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait mes études à une époque où on enseignait essentiellement la physique classique. Et quand j'ai fini mes études, j'avais une grande frustration, je ne comprenais rien à la physique quantique, et j'avais pourtant le sentiment que c'était la clé de la compréhension de beaucoup de choses. Et donc, il y a eu effectivement cette obsession dans ma vie de travailler sur des sujets qui me permettraient de mieux comprendre cette physique quantique. Donc il y a eu l'intrication, il y a eu la dualité onde-particule. Donc on peut dire en ce sens, oui, je suis assez obsédé par comprendre la physique quantique, mais il y a une autre dimension, je suis un expérimentateur. Et donc on a parlé de jubilation tout à l'heure. Pour moi, il y a toujours eu une jubilation extrême, et je pense que mes amis qui sont là, un certain nombre d'entre eux vont comprendre, une jubilation extrême. D'un seul coup, on a un clic et on a détecté un seul photon. Ou alors, on a détecté un seul atome. Aujourd'hui, dans mon laboratoire, on est capable de faire rebondir les atomes sur une nappe de lumière. Vous voyez, on jongle avec les atomes. Ou bien, on a une assemblée d'atomes, ils sont désordonnés, et tout d'un coup, on arrive à les faire osciller à l'unisson. C'est le fameux condensat Bose-Einstein. Il y a quand même une jubilation d'arriver à avoir le sentiment de manipuler la matière à son niveau le plus infime, et en plus, j'attaque aucune autre physique, mais en plus avec une physique à échelle humaine, avec des expériences qui font quelques mètres carrés, dont les coûts ne sont pas exorbitants, deux ou trois personnes, une seule personne arrive à faire marcher l'expérience, bon, mais pour la monter, il faut être plusieurs, mais quand même, donc il y a... Alors qu'on a une physique à l'échelle humaine, on arrive à se confronter un peu à l'intimité de la matière, à jongler avec les atomes.
Et le tout dans un domaine où la physique quantique, on peut dire, à l'aspect, quelque part, c'est magique.
Ah, c'est magique. Oui, ça dépend du mot. Ça dépend du sens que vous donnez au mot. Vous voulez dire que quelquefois, je m'émerveille devant la physique quantique comme peut-être le petit enfant devant la Lune, j'accepte le mot. Mais si par magique, vous voulez dire, vous évoquez des propriétés surnaturelles, là, je suis plus d'accord du tout. Vous le savez, on en a déjà parlé. Donc, le mot magique, tout dépend du sens que vous voulez y donner.
On marque une courte pause avant de retrouver l'académicien des sciences et médaillé d'or 2005 du CNRS, Alain Aspect.
L'histoire des hommes, l'histoire des sociétés, l'histoire des mentalités, l'histoire des lieux, l'histoire des événements. C'est un jour dans l'histoire... en direct ou en médiathèque sur Canal Académie.
Retour à notre habit vert. Dans cette seconde partie, Alain Siroux questionne Alain Aspect sur le phénomène des petites cuillères tordues avant de venir à son goût pour l'enseignement.
Alain Aspect, on vous a déjà approché en tant que physicien pour vous proposer de tordre des petites cuillères ou de comprendre le phénomène ?
Ah oui, à l'époque héroïque, dans les années 70, quand on a commencé à dire qu'il y avait quelqu'un à Orsay là, qui travaillait sur les fondements de la mécanique quantique, alors se sont présentés toutes sortes de personnages étranges qui avaient un point commun, c'est qu'ils pensaient avoir des dons surnaturels, être capables de tordre les petites cuillères ou des dons de clairvoyance. Et alors pourquoi m'approchait-il ? J'ai mis un moment à comprendre. Le raisonnement était simple. On dit, quand on vulgarise la physique quantique, que l'observateur perturbe l'objet observé. D'où la démarche. L'esprit peut agir sur la matière et donc vous avez une théorie pour comprendre pourquoi on est capable de tordre les petites cuillères. Donc, ce que j'ai appris à cette époque-là, et alors ça avait fait tellement de bruit, toutes ces choses-là, qu'ils avaient même réussi à convaincre un laboratoire, sous le patronage d'Alfred Kastler, qu'il fallait faire des expériences. Et c'est à cette époque-là que j'ai entendu parler pour la première fois de Gérard Majax, parce que le laboratoire qui avait organisé ces expériences, je crois que c'est Yves Farge qui avait organisé ces expériences, ils avaient eu la bonne idée de se faire assister de Gérard Majax. Et comme par hasard, quand Gérard Majax était là, eh ben, les petites cuillères ne se tordaient pas, contrairement à ce soir.
Vous en avez tiré des leçons, peut-être ?
Oui, la leçon, c'est que nous sommes tous susceptibles de nous faire avoir, c'est-à-dire que dans notre vie scientifique normale, nous partons du principe que nos collègues ne cherchent pas à nous tromper, mais que si on se trouve dans un milieu différent, face à des gens qui sont susceptibles de vouloir nous tromper, il faut se faire assister. Mais alors, moi, à cette époque, une fois ou deux, j'étais entraîné dans des séances un peu étranges. Et alors, en sortant, je me suis remémoré ce que j'avais lu dans les carnets d'un biologiste de Jean Rostand. Jean Rostand, au début du XXe siècle, avait été entraîné comme ça dans des séances de tables qui tournent, de spiritisme, et il avait noté dans les carnets d'un biologiste cette phrase « Ce qui est le plus extraordinaire, ce qui est le plus stupéfiant dans ces soirées, c'est la crédulité des participants. »
Alain Aspect, je voudrais qu'on aborde maintenant la question du partage, de l'échange. Je sais qu'elle vous tient énormément à cœur. On vous a vu aussi, au cours des conférences, donner cette passion, cet enthousiasme. Le scientifique, depuis longtemps, enfin, à quelques rares exceptions près, ne vit plus dans une tour d'ivoire. Le partage fait partie de son métier, de sa philosophie. On partage d'abord avec les collègues.
Oui, enfin, je crois qu'on l'a vu dans le film. Là, je remercie les auteurs de ce film qui est très beau, je trouve, Jean-François Darce et Anne Papillot. On a bien vu que en fait, tous ces travaux ont été faits en équipe. Il y a eu les mousquetaires, comme l'a dit, les premiers mousquetaires, ceux des inégalités de Bell. Il y a eu les mousquetaires des atomes froids avec leur roi Claude Cohen-Tanucci au service de leur roi. Et puis, et vous avez vu dans l'équipe actuelle à Orsay tous mes collaborateurs seniors et puis tous les jeunes. Beaucoup de jeunes, oui. Alors, c'est vrai que c'est un des grands plaisirs de la science, c'est cette collaboration, ces équipes où il y a les seniors et puis les juniors. Et puis, tous ces jeunes qui sont là ce soir, je crois que c'est une très très bonne idée de les avoir invités. C'est eux qui feront la science de demain, c'est eux qui seront les médaillés de demain, c'est sûr. Au passage, je voudrais dire que je suis heureux que le CNRS invite de nombreux médaillés d'argent, médaillés de bronze. C'est moi qui suis sur la scène, mais cette fête, c'est la fête de tous les médaillés du CNRS.
C'est dans les équipes que naissent les idées aussi, hein. C'est là qu'émergent...
Absolument, on l'a vu, il y a cette séquence dans le film qui est merveilleuse et qui est prise sur le vif. Ce ne sont pas des acteurs qui jouent, ce sont vraiment des gens en train de discuter dans un laboratoire.
Alors, le partage, c'est aussi l'enseignement, c'est la transmission, c'est l'envie de communiquer ce que l'on sait. C'est pas nécessairement facile en physique.
Oui, mais alors ça, c'est. Je crois que nous sommes nombreux scientifiques.
quand nous attaquons un nouveau sujet, et puis dans la douleur, parfois c'est difficile, nous commençons à comprendre quelque chose, alors aussitôt qu'on a compris quelque chose, on a envie de l'enseigner, parce qu'on a envie de partager cette compréhension nouvelle qu'on vient d'acquérir. Donc ça, c'est une. Il n'y a aucun doute que dans l'enseignement, il y a cette notion du partage. On veut partager la connaissance qu'on vient de soi-même découvrir au fond de sa tête. Et c'est même un échange, parce que le fait d'enseigner permet d'approfondir la réflexion. On approfondit la réflexion parce qu'on a besoin de clarifier les idées pour pouvoir les enseigner. Parfois, les étudiants posent des questions vraiment excellentes. Et puis, parfois, on essaie de répondre d'avance aux questions qu'ils ne posent pas, mais qu'ils auraient pu poser. Donc, l'enseignement est vraiment formidable. Puis, bon, peut-être qu'on l'a deviné un petit peu dans le film, en enseignant, quelque part, je me rattache à une tradition, à mes origines. Je veux dire, je dois beaucoup à mes maîtres, je dois beaucoup à ces instituteurs, à leurs leçons de choses. Et... bon, ces leçons de choses, aujourd'hui ça s'appelle plus les leçons de choses, ça s'appelle la main à la pâte. Je crois que c'est tout à fait essentiel pour éveiller l'intérêt des scientifiques. Et en enseignant, quel que soit le niveau où j'enseigne, je me rattache un peu à toute cette lignée.
Alors, pour vous, à l'aspect le partage et l'échange, c'est aussi un combat, c'est-à-dire un combat contre la compréhension, contre la méfiance qui peut exister entre des scientifiques et des communautés.
Déjà, le grand public. Oui, le grand public. C'est clair que si j'accepte, à condition que les conditions soient raisonnables, mais si j'accepte d'aller faire des conférences de vulgarisation ou d'aller, je ne sais pas, la semaine dernière à France Culture, dans un milieu de littéraire, uniquement des cagneux, une émission avec seulement des cagneux, c'est parce que je crois que d'abord c'est notre devoir d'expliquer que la science est belle, et puis aussi de combattre pied à pied cette idée qui traîne parfois que la science est nuisible, qu'elle ne nous a apporté que la pollution, que des problèmes, en oubliant que, je ne sais pas, moi je suis toujours frappé par le fait que la vie humaine s'accroît d'un an tous les 4 ans. C'est absolument extraordinaire. Alors on va me dire, c'est la médecine. Oui, d'abord la médecine c'est de la science. Et puis il n'y a pas que la médecine. Je pense que si la durée de vie augmente, c'est aussi grâce à la révolution industrielle, les machines qui allègent l'appel des hommes. Les hommes aujourd'hui ne se tuent plus au travail comme on le faisait autrefois. Alors je crois que il faut aller vers le public, lui dire la science est belle. Alors la science doit faire face à un certain nombre de problèmes, c'est vrai, on accepte d'en discuter, mais il ne faut pas rester dans sa tour d'ivoire, il n'y a aucun doute.
Vous vous battez aussi contre la méfiance qui existe entre la science fondamentale et la science appliquée.
Oui, alors ça, j'ai du mal à comprendre, il y a cette espèce d'incompréhension mutuelle. Quelquefois, les chercheurs fondamentalistes pensent que les gens qui font la science appliquée ont un peu les mains dans le cambouis, que ce n'est pas très intéressant.
On marque une dernière pause.
Chaque lundi, les académiciens de l'Académie des sciences morales et politiques se réunissent dans la salle des séances de l'Institut de France. Ils écoutent une communication sur un thème choisi.
Pour les séances de l'année 2006, le président de l'Académie, Monsieur André Damien, a choisi le thème de la justice.
Sur Canal Académie en séance, vous permettra d'entendre, entre autres intervenants, Henri Amouroux sur la justice du peuple en 1944.
Maître Jacques Vergès, la passion de défendre.
La justice, thème de réflexion de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2006.
C'est chaque semaine dans En séance sur Canal Académie.
Comment réagir face à des expériences scientifiques qui tantôt ratent, tantôt réussissent? La réponse tout de suite du physicien Alain Aspect.
En science, quand on veut reproduire une expérience et qu'on n'y arrive pas, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une imposture.
Je ne sais pas s'il y a une imposture, mais en tout cas, c'est le béaba de la méthode scientifique. Ouais. C'est d'être capable de reproduire. Donc d'abord, la première chose, c'est de reproduire dans son propre laboratoire. Et ensuite, d'écrire l'expérience qu'on a faite ou le résultat qu'on a obtenu dans un article scientifique. Et les collègues doivent être capables de le faire. On a eu des exemples ces dernières années. Je ne vais pas parler de la mémoire de l'eau. En France, il ne faut pas parler de la mémoire de l'eau. Alors on va parler de la fusion froide. La fusion froide, ils ont écrit un article, personne d'autre a réussi à le refaire, personne ne pense que la fusion froide soit quelque chose de sérieux. À peu près au même moment, des chercheurs ont annoncé la supraconductivité haute température, qui violait autant de dogmes que le reste. Normalement, ça ne devait pas exister, la supraconductivité à haute température. Ils l'ont observé, ils ont décrit leur article, d'autres laboratoires l'ont fait, et puis voilà, il y a eu un prix Nobel. Donc la reproductibilité, oui, je crois que c'est ce qui distingue le scientifique du soi-disant surnaturel, et je suis persuadé que si Gérard Majax voulait bien me montrer en détail comment il fait, peut-être que j'aurais besoin aussi de beaucoup m'entraîner, mais quelquefois, quand on veut reproduire l'expérience d'un collègue, il faut travailler dur avant d'y arriver. Mais à la fin, je suis persuadé qu'il n'y a rien de surnaturel dans ces tours et que j'arriverai à les reproduire.
Vous nous promettez de revenir l'an prochain pour nous montrer que vous réussissez à faire un petit tour ?
À condition qu'ils veulent bien m'entraîner.
On va le négocier. Alain Aspect, il nous reste quelques minutes pour conclure cet entretien. Et c'est vrai que, aussi pour parler de vous-même, et c'est vrai que parler de vous-même, ce n'est pas nécessairement l'exercice qui vous est le plus familier. Vous êtes un homme qui cache sa personnalité derrière la façade du gascon chaleureux. Vous êtes difficile à portraitiser. Alors, peut-être que la meilleure solution, c'est de faire appel à des gens qui vous connaissent bien. C'est le cas d'Édouard Brézin, donc le président de l'Académie des sciences, qui parlait de vous en ces termes lorsqu'il vous remettait la Légion d'honneur. Je vais le citer. J'ai toujours vu en Alain Aspect un personnage d'Alexandre Dumas. L'accent et les fières bacchantes d'un cadet de Gascogne, bien sûr, mais pas seulement cela. C'est aussi le sentiment constant qu'il va tirer sa rapière, non seulement pour défendre la veuve et l'orphelin ou combattre les injustices, mais aussi pour pourfendre les bêtises, la mauvaise science, l'irrationalité. Vous vous reconnaissez dans ce portrait ?
Oui, je me reconnais dans ce portrait, et puis surtout, après avoir entendu ce portrait, mes proches m'ont dit qu'ils me reconnaissaient dans ce portrait, et je pense que leur avis est encore plus pertinent que le mien. D'ailleurs, je saisis l'occasion, je crois que si j'avais fait un discours, j'aurais remercié mes proches, alors je vais saisir l'occasion de dire que tout ce qu'on a vu, tous ces résultats qui ont été obtenus, bien sûr, c'est toutes les équipes qui ont travaillé autour de moi, mais c'est aussi parce que j'avais des proches qui ont toujours été présents, qui ont su me soutenir, qui ont su de temps en temps me faire des gentilles critiques. Et donc, je veux remercier mon épouse, mes enfants, leurs conjoints, parce que sans une famille comme ça, sûrement que je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, revenons à la question, ce que dit Édouard Brézin, confondre, combattre la bêtise, oui, de temps en temps, je m'enflamme un petit peu. Le problème, c'est que j'ai du mal à ne pas réagir. Et par exemple, c'est pour ça que je veux discuter avec mes concitoyens. Quand on parle des problèmes qui se posent, du réchauffement climatique, de la fin annoncée, à juste titre, je crois, du pétrole, eh bien, je crois qu'on n'a pas le droit d'ignorer un certain nombre de lois fondamentales de la physique. Le premier principe de la thermodynamique, la conservation de l'énergie. Ça, je crois qu'on n'est pas prêt de renoncer à cette loi-là. Donc, il faut discuter des problèmes d'environnement, mais à condition de ne pas ignorer ces choses-là. Il faut dire, quand les gens disent « Mais si, on a une solution, c'est l'hydrogène », alors il faut leur expliquer, encore une fois, la conservation de l'énergie. Pour extraire de l'hydrogène à partir de l'eau, il va falloir avoir de l'énergie. On va la tirer d'où, cette énergie ? Alors l'autre jour, j'étais à France Culture, j'ai dit ça instantanément, les courriels sont arrivés. Je savais bien que vous faisiez partie du lobby pro-nucléaire, etc., etc. Non, je fais partie des gens qui enseignent à Polytechnicien que le premier principe de la thermodynamique, c'est dur. Alors, c'est sûr qu'on aura du mal à me faire dire que 2 et 2 font 5. Non, si 2 et 2 font 4, je dirais que 2 et 2 font 4.
Même en tant que physicien quantique.
Même en tant que physicien quantique, oui. Donc, oui, je me reconnais là-dedans.
Ma dernière question, elle est aussi en forme de clin d'œil, mais c'est toujours pour parler de vous. Alain Aspect, vous qui êtes un utilisateur avisé des miroirs, on l'a vu. Je voulais utiliser un autre jeu de miroir pour vous connaître un petit peu mieux, un emprunt au fameux questionnaire de Proust avec la question supplémentaire, pas le questionnaire de Proust lui-même, mais la question supplémentaire qui avait été imaginée par Bernard Pivot dans Apostrophe. Et je vais vous la poser, Alain Aspect. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous qu'il vous dise à vous, Alain Aspect, le jour où vous arriverez au ciel ? Attention, c'est enregistré, c'est filmé.
Oui. Eh bien, ce que j'aimerais bien, c'est qu'ils me disent va vite à l'amphithéâtre Saint-Thomas. Einstein vient juste de commencer son séminaire et le titre va t'intéresser. Le titre, c'est « Une nouvelle interprétation de la mécanique quantique, un siècle après le théorème de Bell ». Notez au passage que j'ai l'intention de durer encore un peu. Le théorème de Bell, c'était en 1965, d'accord ? Mais alors, la cerise sur le gâteau, ce serait que Dieu rajoute « Et si jamais tu avais une bonne idée d'expérience pour tester la dernière idée de notre cher Albert, reviens me voir, nous irons trouver Saint-Paul, je crois qu'il a un reliquat de crédit. »
Merci. Merci Alain Aspé. Je vous propose de convoquer, d'inviter un personnage historique. Je vous propose et j'appelle maintenant la médaille d'or du CNRS. Cette médaille d'or qui nous est amenée donc par Martine du service de communication du CNRS. Merci beaucoup. Voilà, alors on souhaitait la présenter parce que cette médaille d'or qui est distribuée depuis 1954, c'est pas une grande information, mais à deux faces. Et sur ces deux faces, eh bien, on peut dire quelque chose. La première chose, c'est qu'elle a été conçue par le maître médailleur Roger Baron et fabriquée par la Monnaie de Paris. Donc elle récompense depuis 1954 des recherches de sciences pures et désintéressées. Mais aussi, je vais emprunter ces mots à Hubert Curien et à sa mémoire. Hubert Curien disait « Elle distingue des chercheurs dont l'œuvre fait honneur à notre pays » et il ajoutait « L'œuvre et l'auteur s'interpénètrent d'autant plus intimement que l'auteur est original et que l'œuvre est profonde. » Vous partagez ce sentiment ?
Oui, ça me touche particulièrement que vous citiez Hubert Curien. On aurait tellement aimé qu'il soit là ce soir. J'ai une anecdote que peu de gens connaissent sur Hubert Curien. Il y a quelques années, des gens férus de culture scientifique, qui ont une association de culture scientifique dans une vallée des Hautes-Alpes, m'ont convaincu que leur travail était digne de soutien et ont fini par me convaincre de participer à leur comité scientifique. Et figurez-vous que la première fois où je suis arrivé à ce comité scientifique, j'ai découvert Hubert Curien, qui était là aussi, qui était président de l'Académie des sciences, mais qui savait aussi aller aider une association dans une vallée des Hautes-Alpes. Alors je crois que ça nous donne une image du personnage qui était Hubert Curien.
Et un très bon souvenir. Je vais vous décrire cette médaille. Donc côté pile, vous l'avez vu en entrant d'ailleurs, les images étaient projetées. On le voit projeté là-haut. Côté pile, donc Lavoisier, Ampère, Cuvier. Côté face, le penseur de Rodin, qui symbolise par son effort physique tout le symbole universel de la pensée humaine. Et puis, cette devise, alors elle n'a pas été écrite pour vous, Alain Aspé, mais elle est écrite à l'occasion, en tout cas, de cette médaille d'or particulière, puisqu'elle est signée donc d'Henri Poincaré. La pensée n'est qu'un éclair, disait Poincaré, au milieu d'une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. Poincaré, c'est quelqu'un qui a du sens en cette année 2005, donc centenaire de la physique, en tout cas de la relativité générale. C'est un personnage que vous admirez, Poincaré ?
Oui, c'est incontestablement un grand parmi les grands, Poincaré, et je crois que ses travaux dans le domaine de la dynamique en particulier, ses travaux précurseurs sur le chaos, sont des travaux d'une puissance tout à fait remarquable. Cela dit, moi j'ai quand même une question que je me pose sur Poincaré, et je crois que personne n'est capable vraiment d'y répondre. Cette question, c'est comment se fait-il que, alors qu'il avait tous les éléments pour découvrir la relativité, il avait compris la relativité du temps, en un certain sens. Il connaissait les transformations qui règle le passage d'un référentiel à l'autre, qui montre que le temps ne doit pas être le même dans un référentiel et dans l'autre, que les règles ne sont pas les mêmes dans un référentiel et l'autre. Pourtant, qu'est-ce qui l'a empêché de faire le dernier pas, le pas révolutionnaire, celui qu'Einstein n'a eu aucun mal à faire, ce pas qui consiste à dire, on en revient au formalisme, ce n'est pas qu'un formalisme, la nature, le monde est réellement comme ça. Dans le vrai monde, le jumeau qui part en fusée et qui revient ne vivra pas au même rythme que celui qui est resté là. Quelque chose là l'a empêché de faire ce dernier pas. Je me demande ce que c'est. Est-ce qu'on pourrait dire, on connaît la puissance intellectuelle de Henri Poincaré, est-ce que c'est ses ailes de géant qui l'empêchaient de marcher? Qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas eu cet ultime déclic? Je crois que la découverte, ça reste un grand mystère.
Et c'est sur ces derniers mots que se termine cet habit vert consacré à Alain Aspect. Pour en savoir plus sur ses travaux ou sur le chercheur même, vous pouvez vous connecter au site internet du CNRS au www.cnrs.fr. Vous pouvez également surfer sur le site de l'Académie des sciences au www.academie-sciences.fr. Merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Au revoir et à bientôt.